De Radio Classique avec François Geffrier.
Esprit libre, bonjour Hôtel Krief.
Bonjour François.
Bienvenue et bonjour à vous Bruno Jeudy.
Bonjour François.
Pardon. Directeur de la rédaction de la Tribune Dimanche. Je ne sais pas si vous avez prévu de prendre le train ce week-end au milieu des vacances scolaires de la zone C, du début de celle de la zone A, mais ça risque d'être délicat avec cette grève des chefs de bord. Est-ce que cette grève est légitime? Question difficile. Hôtel Krief.
Oui, la question est difficile. C'est le même collectif qui avait demandé et promis, prévu la grève pendant les vacances de Noël et qui remet ça. Et cette fois-ci, on a l'impression que le PDG de la SNCF, parce qu'il ne veut pas accéder à toutes les demandes, fait preuve un peu de résistance. Il ne cède pas tout, le gouvernement non plus. Et c'est pas inintéressant. C'est une épreuve de force compliquée parce que les voyageurs vont en subir les conséquences. Là, l'enjeu, c'est plus l'aspect de chantage, en fait. Mmh. C'est plus que le contenu lui-même, c'est plus la méthode. La méthode qui est, comme d'habitude, de bloquer les voyageurs. Donc là, il y a un bras de fer qui est plus sur la méthode et dans laquelle Jean-Pierre Farandou veut montrer qu'il ne cédera pas et donc qu'il prend ce risque qui est un TGV sur deux avec pas mal de Français qui vont être bloqués, mais quand même d'autres qui pourront partir.
L'objectif, c'est un TGV sur deux.
C'est
la communication est assez floue.
C'est ça, c'est sûr. Mais voilà, donc il y a une volonté surtout de mettre en cause la méthode et de dire je ne céderai pas sur la méthode parce que sinon ce sera à chaque fois toutes les vacances et à chaque fois et c'est un collectif plus autonome que les syndicats et c'est un rapport de force entre syndicats comme d'habitude dans les conflits sociaux en l'occurrence dans les grandes entreprises de transport.
Bruno, je dis faire grève quand ça entraîne une perturbation, c'est un peu le principe de la grève, que ce soit la SNCF ou dans n'importe quelle entreprise. D'où cette question à nouveau. Est-ce que la grève est de droit, en quelque sorte?
Alors bon, effectivement, en Europe, il y a des législations qui diffèrent. Vous pouvez aller jusqu'à la situation italienne où il est interdit de faire grève pendant les vacances. Je crois à l'exception des vacances de février. Donc là, vous avez une situation qui protège
le voyageur,
l'usager, notamment en période de congé. Ça, c'est la situation qui existe de l'autre côté des Alpes. Pour la plupart des endroits, même lorsque vous avez l'interdiction le droit de grève est beaucoup plus encadré, ce qui est le cas par exemple dans le ferroviaire en Belgique ou aux Pays-Bas. Même là, on a vu des situations où au fond, lorsqu'il y a grève totale, il y a grève totale. Donc la situation française n'est pas si exceptionnelle que ça quand on regarde au niveau européen.
C'est la répétition qui est problématique.
Et effectivement, on va rentrer dans une phase où sans doute que des conflits de ce type, il y a un risque qui se multiplie avec la perspective des Jeux Olympiques. Ce risque de chantage isolé pour certaines catégories.
Il y a un levier massif.
Il y a un levier très important et les PDG et de la SNCF et de la RATP et des grands réseaux de transport publics dans les collectivités, dans les grandes collectivités en France, risquent de se trouver confrontés à ce type de conflit. Alors que là, on le voit dans la situation présente pour la SNCF, les revendications ont été entendues. Elles ont été pour partie.
Il y a eu des primes exceptionnelles et des embauches notamment.
Tout à fait. Et donc, il y a. D'ailleurs, Jean-Pierre Farandou s'est tout de suite réjoui qu'une partie des syndicats s'était retirée du mouvement. Mais il n'empêche, il y a une forme de jusque-boutisme et de chantage. Et le risque, c'est que pour les 6 mois qui viennent, on ait ça qui se répète dans quelques secteurs très sensibles et évidemment hyper gênant pour
les JO,
les usagers.
Avec en plus ce fait que la SNCF comme EDF par exemple sont soumises parfois aux injonctions contradictoires de l'État actionnaire, rentabilité, maîtrise de la dette, mais surtout lâcher vite et fort quand la tranquillité des Français est en jeu. Autre sujet de tension sociale dans l'actualité, les agriculteurs. Certes, il n'y a plus de blocage sur les autoroutes depuis 10 jours, mais ils ont montré hier qu'ils gardaient la main sur l'agenda. Le salon de l'agriculture est, lui, en fin de semaine prochaine. Nouvelle rencontre hier à Matignon. Ils sont toujours en position de force, Hôtel Krief.
En tout cas, je l'en ai vu et j'ai vu les responsables de la FNSEA à la fin du conflit, qui étaient plutôt satisfaits, tout en étant prudents, mais qui étaient plutôt satisfaits de voir leurs revendications acceptées et leur retour un peu sur cette pression assez rapidement m'a un peu surprise. En fait, ce que je crois, c'est que notamment à l'intérieur même du monde agricole, les éleveurs sont très inquiets, sont très demandeurs de mesures, et ils ont le sentiment qu'ils n'ont peut-être pas été si bien servis dans la négociation. Donc là, c'est pareil, il y a le levier du salon de l'agriculture, et c'est l'intérêt de tous, et y compris du gouvernement, hein, de faire en sorte que ce soit pas un échec, ce salon. Donc il y a une accélération un peu des rendez-vous, il y a une accélération des mesures, ou en tout cas une volonté, mais c'est une mise à l'épreuve de la méthode Attal. C'est vrai que Gabriel Attal dit, moi je veux montrer des résultats, je veux pas seulement parler. Et donc là, il est vraiment devant cette épreuve, et du côté de la FNSEA, il y a évidemment cette concurrence aussi entre syndicats avant des élections aux chambres d'agriculture, qui veulent montrer qu'elles sont toujours sur la balle entre guillemets, et ne pas lâcher. Mais j'étais un petit peu surprise par le retour aussi rapide de la pression, parce qu'il faut quand même un certain temps. La négociation du plan éco-phyto, ça prend du temps, c'est discuté. Et bon, il y a eu un clash avec les ONG écologistes, donc bon. Mais il y a une date butoir, et en l'occurrence, pour le président Macron, c'est très important. Donc il faut s'attendre à ce que ça progresse assez vite.
C'est peut-être un doute sur la capacité de l'exécutif à vraiment satisfaire les attentes des agriculteurs qui sont à la fois si nombreuses et si vastes, Bruno Jeudy.
Je suis assez d'accord avec Ruth sur un point, c'est qu'on sent qu'Emmanuel Macron met la pression sur Gabriel Attal. La semaine dernière, il est allé visiter une exploitation agricole, celle du président des jeunes agriculteurs dans le Doubs. Il a discuté pendant 3 heures hors caméra et photographe avec une demi-douzaine de professionnels. Et quand il est rentré, il a demandé à ce qu'on lui remonte le nombre de préfets qui, nombre de départements où les discussions pour le mois de simplification étaient réellement engagées. Il n'a pas réussi à avoir le chiffre pendant le week-end. On sent qu'il y a beaucoup, petite quand même tension entre l'Élysée et Matignon, et au fond c'est vraiment la capacité à Gabriel Attal non plus à communiquer mais à suivre les dossiers et à les faire avancer. Le mois de simplification, comme la Palice l'aurait dit, c'est 30 jours, on en est déjà presque à la moitié, et les responsables syndicaux, les responsables, ceux qui étaient sur les barrages, je pense à Jérôme Bell, il était interviewé hier, on l'a vu pas mal.
Gabriel Attal
qui avait donné titus à Attal, il dit on n'a pas vu vraiment arriver les premières mesures, donc il s'est peut-être beaucoup engagé, Gabriel Attal, sur un dossier qui est complexe, hein, l'agriculture c'est vraiment très difficile, les agriculteurs auraient tort aussi de dire qu'ils n'ont rien obtenu, ils ont obtenu des choses. Mais maintenant, il va falloir vraiment concrétiser les choses, et là il y a un test assez important.
Un test pour l'administration, en réalité, pour l'administration du ministère et pour l'administration en général, d'aller vite et de délivrer aussi clairement que le politique le veut.
Voilà, mais c'est aussi Gabriel Attal a mis beaucoup de son poids dans cette affaire, donc du coup le président le teste aussi. Et celui qui inaugurera le salon, c'est pas le Premier ministre, c'est le président de la République. Oui. Donc les huées et la bronca, c'est lui qui la récoltera si ça se passe mal.
Et le sujet de la rémunération est en partie inextricable, puisque on veut à la fois exiger des baisses de prix en rayon de la part des distributeurs et que ces mêmes distributeurs donnent de l'air à leurs fournisseurs et au monde agricole. Dans Esprit Libre, ce matin, sur Radio Classique, nous évoquons aussi la situation au Proche-Orient, cette offensive de l'armée israélienne sur la ville de Rafah. Moment délicat, car depuis 4 mois, la population civile a peu à peu été justement massée dans cette zone sud de la bande de Gaza. Qu'en dites-vous, Hôtel Krief?
Moi, je crois que la situation est très difficile. Elle est lorsqu'on a vu que Benjamin Netanyahu a réussi à faire libérer 2 otages, il a gagné des points en interne, parce qu'on a une société israélienne qui fait quand même globalement pression, non pas pour que la guerre s'arrête, mais pour que les otages soient libérés. Et il y a quand même une forme de scepticisme sur cette offensive à Rafah, qui n'est pas appuyée que par toute la société israélienne, qui est assez inquiète, mais qui veut à tout prix d'abord récupérer les otages. Et donc il y a des voix qui s'élèvent dans cette société pour dire ça doit être la priorité, et il faut peut-être discuter, et il faut arriver à discuter.
Donc, mais trouver une nouvelle trêve.
Mais oui, alors là, elle n'aboutit pas, hein, cette discussion pour le moment. Mais le fait qu'il ait réussi à libérer 2 otages justifie pour Netanyahou la suite de cette offensive qui est extrêmement risquée, qui est très très condamnée à l'avance par de nombreux pays, de nombreux acteurs locaux, par la France, par l'Europe, et qui est effectivement très inquiétante parce que on se demande où est-ce que les civils vont pouvoir se réfugier. Néanmoins, lorsqu'on voit que les otages ont été libérés dans une famille de civils, ça reste à l'intérieur de la société israélienne un argument qui est très difficile à contrer. Voilà, cette guerre, elle est très complexe, elle est très dure, elle fait beaucoup de morts du côté palestinien, elle fait un traumatisme gigantesque du côté israélien, et elle n'avance pas. Ce qui est problématique, c'est que la situation intérieure politique israélienne ne progresse pas, alors que Netanyahou est très très bas dans les sondages et qu'on voit très bien que les Israéliens souhaiteraient sans doute un changement à la tête du pays pour avoir plus de clarté. Donc je suis assez pessimiste à cette heure-ci, pour ce qui est en train de se passer.
On a appris hier que la France sanctionnait des colons pour des violences contre les civils palestiniens. C'est quoi? C'est la position d'équilibre recherchée par Paris dans ce conflit, Bruno Jeudy?
Oui, la position de Paris, elle ne varie plus maintenant. Là, c'est la stabiliser. Diplomatie française a stabilisé sa position après des allers-retours au début qu'il a fallu parfois suivre avec difficulté. Mais maintenant, c'est assez stabilisé. Moi, ce que je trouve effrayant, c'est le désastre humanitaire que représente Rafah. Enfin, la population de cette grande ville, des gens qui ne savent plus où aller. Je pense que pour Israël, il y a un moment, plus le conflit va durer, plus l'État israélien va s'isoler. C'est ce qui guette. Alors Netanyahou est d'une certaine manière habitué, mais ça va devenir une sorte d'impasse pour lui. Là, il va s'enfoncer dans une impasse militaire, diplomatique, avec une pression humanitaire.
Les Américains, notamment, qui
sera intenable.
Après avoir ratissé Gaza du nord au sud, la question, c'est quelles sont les options ensuite?
C'est-à-dire que le discours officiel, c'est qu'il reste que 75% des forces du Hamas ont été éliminées, qu'il faut garder les 25-4%, et que concrètement, le fait d'avoir trouvé des otages justifie que c'est là qu'ils sont, c'est là que les chefs du Hamas sont réfugiés. Et effectivement, c'est terrible pour les civils qui sont là, mais la question reste aussi du côté du Hamas. Il faut que les acteurs internationaux qui interviennent auprès d'Israël, et c'est normal, interviennent aussi auprès du Hamas pour leur demander de rendre les otages et de se mettre en situation d'une trêve pour protéger leur propre population.
Sur leurs alliés, Qatar et...
Évidemment. En fait, c'est évident que c'est le meilleur argument, entre guillemets, contre la guerre, c'est la fin de la guerre par le Hamas lui-même et par la libération des otages. Je ne dis pas que l'offensive doit se poursuivre, mais en tout cas, ce serait un moyen de débloquer, évident. Et donc, que la pression s'exerce sur Israël, c'est normal, mais que la pression s'exerce aussi sur le Hamas pour qu'elle libère des otages et qu'elle repose les armes pour protéger sa propre population civile, ça me paraît aussi une évidence, sauf que ça paraît pas une évidence pour beaucoup de pays et beaucoup de gens.
Je voudrais pour finir évoquer Rachida Dati, ministre de la Culture aujourd'hui, qui a participé à une émission sur le rap, et cela a fait polémique, notamment quand elle a indiqué qu'elle invitait ses animateurs pour la prochaine émission.
Vous voulez qu'on fasse où ?
Au ministère de la Culture. Vous êtes évidemment...
Genre on vient et...
Et vous venez avec vos...
Vraiment ?
avec vos manettes, avec votre matériel, vous venez, vous installez tout et vous venez me faire un DVM.
Ah bon?
Oui, c'est bon.
Non, c'est vrai. L'invitation est lancée.
Oh. Mais on fait du bruit, tu sais. Hein.
Ah oui,
ah oui. On fait beaucoup de bruit.
Hein. Un ministère de la Culture sans bruit, c'est pas un ministère de la Culture.
Voilà, du rap au ministère de la Culture, pourquoi pas, mais la polémique est venue de Jordan Bardella, du RN, qui reproche à cette émission DVM Show de faire la promotion permanente du deal et d'être un repère d'un rappeur antisémite. Qu'en pensez-vous, Bruno Jeudy?
C'est sûr que s'il faut passer chaque rappeur au scan, on peut avoir quelques mauvaises surprises. Moi, j'en pense plutôt du bien de l'initiative. Rachida Dati, au fond, elle va essayer de surprendre, elle va essayer d'aller là où on l'attend pas. Alors, il y aura un peu casser un peu de vaisselle, mais après tout, le rap fait partie de c'est un art musical. Bon, moi, j'apprécie moyennement, mais il y a des tas de jeunes qui ne jurent que par le rap. Donc,
c'est la musique la plus écoutée sur les plateformes de musique. Hein.
Ça fait des scores canons, incroyables. Donc voilà, elle s'ouvre à... Alors après, elle est très maligne dans ses premiers pas parce que elle se fait pas planter sur des choses justement culturelles où elle pourrait être mise en difficulté. Là, elle va aller sur le rab, on va la voir un autre moment sur un autre lieu culturel inattendu.
Hein, vraiment le
oui,
le
elle joue cette carte-là et puis avec une communication à la Rachida.
Donc, juste qu'il faudrait quand même vérifier que ces rappeurs, à part d'être antisémites, ne sont pas aussi extrêmement violents avec les femmes, par exemple. Parce que c'est le cas dans leurs textes et dans leur réalité. Quand on voit, et je ne dis pas ça pour le rap, parce que moi je suis assez attachée, j'aime beaucoup et ça m'intéresse, mais je suis assez désolée de voir les track records d'un certain nombre d'entre eux.
Donc, avec une banalisation de ce genre de propos.
Oui, avec une banalisation des propos et des pratiques des grandes vedettes, hein, et notamment contre les femmes. Donc, c'est vrai que c'est un coup politique comme c'est en faire Rachida Dati, et ça, il y a toujours une forme d'artiste chez elle de la politique, ça, il n'y a aucun doute. Mais moi, j'aurais pas été contre-vérifié quand même, hein, les performances et les prestations de certains.
Nos esprits libres ce matin sur Radio Classique, les rappeurs Ruth Elkrieff et Bruno Jeudy. Merci beaucoup à tous les deux. Il est 8h57 dans un instant. La météo, le journal, et puis Franck Ferrand.